Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une nouvelle escalade entre la Turquie et la France. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Emmanuel Macron à faire examiner sa santé mentale, selon ses mots, en raison de ses positions envers les musulmans et l'islam. 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Dans ce journal, nous irons à Istanbul et nous analyserons la réponse de l'Élysée.
Et puis à la une aussi ce matin, de nouveaux records de contamination recensés de Covid-19 en Europe.
En France, 52 000 cas recensés en 24 heures, alors que le nombre de malades en réanimation continue de progresser, dépassant les 2500 sur l'ensemble du territoire. En Italie, après les chiffres records de nouvelles contaminations, le gouvernement a pris des mesures drastiques malgré les manifestations ces derniers jours à Rome et à Naples contre le couvre-feu. Reportage à Rome dans ce journal.
Et puis les jeunes font partie des plus touchés par les conséquences de la crise économique issue de la crise sanitaire.
Sophie. L'emploi des jeunes, il en sera question à Matignon ce matin à la conférence du dialogue social organisée autour de Jean Castex. Analyse à suivre. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, d'où vient la notion d'islamo-gauchisme? Je poserai la question à Jean-Yves Franchère. Il est professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles.
La tension est encore montée d'un cran entre la France et la Turquie ce week-end. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois pris pour cible son homologue français hier en déclarant qu'Emmanuel Macron s'était égaré en raison de ses positions envers les musulmans et l'islam. Samedi, lors d'un congrès de son parti, Recep Tayyip Erdogan s'en était déjà pris au président français en affirmant qu'Emmanuel Macron avait besoin de soigner sa santé mentale, selon ses mots. Des propos qui avaient poussé la France à rappeler pour consultation son ambassadeur à Ankara. Hier, le chef de l'État turc a donc réitéré ses attaques à Istanbul, à Nandlower.
Le courroux de la France ne fait ni chaud ni froid à Recep Tayyip Erdogan. Cette fois, le président turc n'a pas interpellé nommément Emmanuel Macron, comme il l'avait fait à plusieurs reprises dans un discours la veille, mais le propos était le même. S'adressant à l'individu à la tête de la France, je cite, il a accusé le dirigeant français de s'en prendre à Erdogan du matin au soir, parlant donc de lui-même à la troisième personne. Puis il a de nouveau appelé son homologue français à se faire examiner, sous-entendu, à faire examiner sa santé mentale. Regarde-toi d'abord, regarde où tu vas. Comme je l'ai dit hier, c'est un cas, a lancé Tayyip Erdogan au sujet d'Emmanuel Macron. Ces dernières années, le chef de l'État turc a pris l'habitude d'attaquer de façon virulente tel ou tel dirigeant étranger, au gré des crises diplomatiques, mais aussi en fonction de son agenda de politique intérieure. Syrie, Libye, Méditerranée orientale ou au Karabakh. Depuis un an, la France présente la particularité de s'opposer à la Turquie dans tous les dossiers internationaux où Recep Tayyip Erdogan essaie d'imposer ses points de vue. Le président turc, qui prétend par ailleurs jouer les défenseurs des minorités musulmanes dans le monde, mais s'inquiète aussi pour l'influence de son pays sur l'islam en France, via les imams et les mosquées contrôlées par la Turquie, est sans surprise très opposé au projet de loi français sur les séparatismes. Enfin, face à son opinion publique, Recep Tayyip Erdogan cherche sans cesse à désigner des adversaires, voire des ennemis. Ces derniers temps, c'est donc à Emmanuel Macron qu'il a fait endosser ce rôle.
Emmanuel Macron qui a répliqué sur Twitter hier soir et plaidé en faveur de la défense de la liberté. Auparavant, c'était le Quai d'Orsay qui avait communiqué pour demander l'arrêt des appels au boycott des produits français, Nadine Epstein.
La liberté, nous la chérissons, l'égalité, nous la garantissons, la fraternité, nous la vivons avec intensité, rien ne nous fera reculer, jamais. Voilà un des messages que le président de la République a tweeté en anglais et en arabe. Emmanuel Macron a également publié la phrase de la chanson du groupe U2, « We are one, nous sommes unis ». Juste avant l'Élysée, le Quai d'Orsay avait lui demandé aux groupes et aux pays du Moyen-Orient d'arrêter les appels au boycott des produits français. Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté, communiquait le ministère des Affaires étrangères. La France estime que ces appels sont instrumentalisés à des fins politiques par une minorité radicale et elle appelle les dirigeants des pays concernés à se désolidariser de ces appels au boycott et des attaques contre la France. Paris leur demande aussi d'assurer la sécurité des Français à l'étranger.
Et Thomas Larabi reviendra sur le thème de la Turquie dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. Des scènes de liesse cette nuit au Chili, un an après un soulèvement populaire massif contre les inégalités sociales. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Santiago. Le oui l'a emporté hier au référendum en faveur d'une nouvelle constitution à plus de 78% selon des résultats quasiment définitifs avec une participation de près de 50%. Reportage à suivre dans le journal de 8h sur France Culture. En Biélorussie, un appel à la grève générale pour aujourd'hui a été lancé par l'opposante biélorusse en exil, Svetlana Tsikhanouskaya. Elle avait lancé un ultimatum au président Loukachenko de démissionner. L'ultimatum a expiré hier soir après de nouvelles manifestations de masse réprimées par la police à Minsk.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont face au nouveau record de contamination de Covid-19. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a renforcé hier les mesures de restriction.
Oui, avec 20 000 nouveaux cas recensés lors des dernières 24 heures, c'est la ligne dure qui prévaut en Italie, celle que réclamaient de nombreux présidents de régions malgré des manifestations contre le couvre-feu et l'opposition des commerçants à Rome. Le reportage d'Olivier Tosseri.
Giuseppe Conte a décidé de reprendre la main sur le dossier de la lutte contre le coronavirus. Face à l'explosion du nombre de contagions, à certains présidents de régions qui menacent de faire cavalier seul, mais aussi pour ne pas être accusé de laxisme, il a adopté une série de mesures draconiennes, une fermeté qui convainc Simona, retraitée.
C'est ce qu'il faut faire car le nombre de contagions explose. Donc ces précautions sont les seules que nous devons faire pour préserver les personnes âgées, mais aussi les enfants, voilà tout. Ça ne sert à rien de discuter sur la restriction ou pas des libertés. Nous sommes en pleine pandémie, un point c'est tout.
Mais cette ligne dure avec la fermeture des cinémas, théâtres, salles de gym et piscines suscite l'inquiétude de secteurs économiques déjà durement frappés par la crise. Les bars et restaurants devront cesser de servir après 18 heures, ce qui provoque la colère de ceux qui refusent de jouer le rôle de bouc émissaire de la diffusion de la maladie. C'est le cas de Francesco, qui gère un bar.
Les autorités se sont acharnées sur nous. On a l'impression que les bars et les restaurants sont un vrai cancer. Tout est de leur faute. Ensuite, on voit les tramways, les bus et les trains bondés. Et on veut donner l'impression que le cancer contre lequel lutter sont les bars, les restaurants et la vie nocturne des jeunes.
Giuseppe Conte affirme faire tout son possible pour préserver à la fois la santé des citoyens et l'économie tout en comprenant la colère. Elle monte et a commencé à s'exprimer ce week-end avec des manifestations violentes contre le couvre-feu à Naples. Et dans la capitale.
Nouveau record de contamination aussi en France, avec plus de 52 000 cas recensés en 24 heures, alors qu'on atteint désormais 2500 malades en réanimation, selon Santé publique France. Le couvre-feu est entré en application il y a maintenant 10 jours en région parisienne et dans plusieurs autres métropoles. Et depuis vendredi, il est étendu à 38 nouveaux départements français. Une mesure pour éviter un reconfinement, mais qui pèse malgré tout sur l'économie. On s'intéresse ce matin aux étudiants, alors que 40% d'entre eux doivent travailler en parallèle de leur études, Diane Berger.
Grâce au babysitting, Juliette pouvait gagner environ 200 euros par mois. Une somme précieuse pour l'étudiante de 21 ans qui doit rembourser un emprunt. Mais aujourd'hui, couvre-feu oblige, les parents des enfants qu'elle gardait ne sortent plus.
Depuis l'annonce du confinement nocturne, du coup, je ne gagne plus rien. Donc j'ai des économies, mais d'habitude, ces économies-là me servent pour toute l'année. Le problème, c'est que là, je sais qu'en 2 mois, mon salaire va y passer. Et quand on est étudiant, c'est assez important de pouvoir se focaliser sur ses études et non pas sur est-ce que je vais être à découvert ce mois-ci ou pas.
Avec les restrictions actuelles, impossible pour elle de trouver un nouvel emploi en soirée pour que ce soit compatible avec ses horaires de cours. Et Juliette n'est pas la seule étudiante en difficulté. Sébastien Tolo l'a constaté, il est le secrétaire général du Secours Populaire dans le Rhône. Et à Lyon, par exemple, le nombre d'étudiants qui demandent de l'aide à chaque permanence a plus que doublé par rapport à l'année dernière.
La succession de petits boulots qu'ils n'arrivent pas à retrouver fait qu'ils s'installent malheureusement dans une demande d'aide auprès de notre association. On n'est qu'au mois d'octobre et si déjà certains étudiants doivent se retrouver à devoir arrêter leurs études, on est sur une année complète qui sera pour eux une année fichue, sans perspective de pouvoir dire en attendant je cherche un emploi.
Alors l'extension du couvre-feu l'inquiète. Sans travail dans les restaurants, dans les bars et dans les salles de spectacle et sans non plus les gardes d'enfants en soirée, beaucoup de jeunes risquent de basculer dans la précarité.
Diane Berger pour France Culture.
7h09, l'emploi des jeunes. Il en sera question à Matignon ce matin, Sophie.
Oui, patronat et syndicats sont réunis pour la conférence du dialogue social organisée autour de Jean Castex et de plusieurs ministres, Fabien Cazeau.
C'est un sujet sur lequel le gouvernement se sait très attendu, surtout avec les quelques mois de recul dont on dispose désormais pour évaluer l'efficacité de son plan jeune. Selon les chiffres qu'il présentera ce matin, les embauches sont restées plutôt bien orientées, 696 000 en août et en septembre, soit 10 000 de plus qu'à la même période l'année dernière. Pour autant, il semble difficile d'y voir à ce stade un effet direct des aides à l'embauche accordées aux entreprises qui signent des contrats d'au moins 3 mois à des jeunes de moins moins de 26 ans. Le dispositif n'en est qu'à sa phase de démarrage. À peine 43 000 demandes ont été enregistrées jusqu'à présent. D'autres sujets de premier plan seront abordés ce matin, comme la réforme de l'assurance chômage, la formation professionnelle ou encore la question du partage de la valeur dans les entreprises entre actionnaires et salariés. Sans oublier, bien sûr, dans le contexte sanitaire actuel, les questions de santé au travail et de télétravail.
Une soixantaine d'associations et de syndicats réunis au sein d'un collectif réclament des contreparties aux aides et réductions d'impôts accordées aux entreprises. Alors que les députés examinent à partir d'aujourd'hui la partie dépenses du projet de loi de finances, pour le moment, aucune contrepartie n'a encore été intégrée au texte qui doit mettre en œuvre le plan de relance de 100 milliards d'euros. Le pacte de vivre, c'est le nom de ce collectif, appelle les parlementaires à la responsabilité. Samuel Léré en fait partie.
Cette obligation que l'on porte, elle est que sur les grosses entreprises. Le but, c'est pas d'embêter effectivement la boulangerie ou la petite PME du coin. L'idée, c'est vraiment des grosses entreprises qui sont celles qui vont toucher le plus d'argent et qui sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre, de leur obliger à un changement de pratique. L'idée aussi, c'est d'accompagner cette transition, c'est-à-dire que plus tard, on fera la transition, et plus les entreprises seront obligées de se transformer rapidement. Là, il nous reste encore quelques années, c'est le moment que l'argent public serve ces transformations-là. Et le deuxième argument qui est dit, ce serait, mais il y a des discussions au niveau européen. Ce qu'il faut bien marquer, c'est que ces discussions européennes, elles ont à peine commencé. Donc ça prendra au moins 3 ans, voire plutôt 4 ou 5 ans, et on n'a pas le temps d'attendre. Et surtout, dans les discussions qui sont faites, on est très loin d'avoir des sanctions. Pour le moment, c'est juste d'avoir des nouvelles obligations de rapport et d'engagement, mais sans la sanction. Or, nous, ce qu'on voit, c'est que si on ne met pas de sanctions, à chaque fois, les entreprises, en fait, finalement, ne sont pas obligées de le faire. Donc, il faut absolument imposer des sanctions, non pas pour sanctionner les entreprises, mais plutôt pour les forcer à respecter leurs engagements.
Samuel Léré, membre de la Fondation Hulot, répondait à Marie Viennot, qui consacre sa chronique « La bulle économique » à cette question. Contrepartie aux aides de l'État, le diable dans les détails. À retrouver en ligne sur franceculture.fr et en podcast sur l'appli Radio France. De la pluie et des nuages sur la Normandie, la façade atlantique, des orages aussi sur la Côte d'Azur, des averses en général sur le reste du pays, avec des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h sur le pourtour méditerranéen. Alternance de nuages et d'éclaircies sur l'Île-de-France et la Bourgogne. Les températures ce matin sont comprises entre 7 et 18 degrés, 7 degrés à Nancy, 10 à Paris et maximum 18 degrés à Ajaccio, Guillaume Erner.
Eh bien, merci beaucoup Sophie Delpont. Dans quelques instants, on va essayer de faire la genèse d'une notion, la notion d'islamo-gauchisme. Nous serons en compagnie de Jean-Yves Pranchère, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles, 7h13 sur France Culture.